Et oui, ce thème nous est inspiré par le Motu Proprio publié par le pape François le 11 janvier dernier, dans lequel le Saint-Père ouvre la possibilité de confier de manière permanente les ministères de lecteur et d'acolyte à des femmes. Alors de quoi cette plus grande place faite aux femmes est-elle le signe? Leur place dans l'Église est-elle à l'image de celle qu'elles occupent dans la Bible? Voilà les questions que je poserai à mon invité. Et pour parler des femmes, j'accueille un homme, le père Cyprien Comte, enseignant en théologie à l'Institut catholique de Toulouse, par ailleurs à l'origine des conférences bibliques proposées par le service de formation du diocèse qui a pour thème cette année « Les femmes dans la Bible, la boucle est bouclée ». Bonjour Père.
Bonjour Isabelle.
Alors, je vais vous donner la phrase qu'a écrite le pape François dans le Motu Proprio « Spiritus Domini ». J'ai considéré comme opportun d'établir que puissent être institués lecteurs ou acolytes non seulement des hommes, mais aussi des femmes, chez lesquelles, à travers le discernement des pasteurs et après une préparation adéquate, l'Église reconnaît la ferme volonté de servir fidèlement Dieu et le peuple chrétien. Qu'est-ce à dire, Père? Le Vatican découvre que les femmes savent lire?
Non, je ne crois pas, hein, vraiment. Vous savez, moi j'ai eu cette chance-là de travailler surtout avec des prêtres et des séminaristes dans le travail de formation. Mais enfin, quand j'ai quitté l'équipe du séminaire pour venir à la faculté de théologie, j'ai laissé la place à une femme comme formatrice au séminaire. Et donc c'est la première qui est dans cette fonction à Toulouse. Mais je dois dire que si moi je m'en rends compte et que j'ai l'occasion de travailler avec des femmes, le Vatican savait déjà que les femmes savent lire, et je dois dire que pour ma part, les meilleures lectures bibliques que j'ai entendues dans ma vie ont peut-être bien été faites par des femmes.
Ça c'est dit. Alors Père, le lectorat et l'acolytat dont le pape François institutionnalise l'ouverture aux femmes, qu'est-ce que c'est?
Alors le lectorat et l'acolytat, donc ce sont des ministères stables et donc institués par l'Église et qui sont conférés au cours d'une célébration liturgique, donc acolytat et lectorat. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est que le pape François ouvre la possibilité, donc c'est par ce motu proprio qui a été publié le lendemain de la fête du baptême du Seigneur, donc c'était le 11 janvier dernier, et la possibilité est ouverte donc de confier ce ministère à des femmes, alors qu'avant il était donc conféré uniquement à des laïcs déjà, mais c'était uniquement des hommes. Il faut dire que dans la plupart des cas, ces hommes sont des séminaristes qui se préparent à l'ordination. Donc la nouveauté est vraiment celle-là, ministère stable, ministère institué et reconnu officiellement, confié officiellement par l'Église, par l'évêque. Voilà une nouveauté effectivement relativement importante.
Et alors le lectorat, on comprend bien, c'est la possibilité de lire. L'acolytat, est-ce que vous pouvez nous préciser le droit qu'il donne aux femmes?
Alors on pourrait dire que le lectorat, c'est même davantage que le fait de lire dans l'assemblée liturgique, puisque ça touche à un certain nombre de services concernant la parole de Dieu. Et donc la préparation des lecteurs aussi dans la liturgie peut revenir au lecteur institué, ça convient bien. Et puis on pourrait d'ailleurs élargir à d'autres formes d'éducation à la parole de Dieu. Par ailleurs, donc l'acolytat, vous savez, acolyte, ça vient du grec qui signifie suivre, et donc l'acolyte, c'est celui qui suit quelqu'un, et en l'occurrence, dans l'Église, on a l'habitude de dire acolyte pour les servants d'autel, pour la personne qui accompagne le prêtre à l'autel, mais on pourrait dire de la même façon que servir pendant la célébration de l'Eucharistie, ce n'est pas le tout du ministère de l'acolyte, qui est aussi chargé, en fait, dans les textes liturgiques et les textes de l'Église, hein, de conduire la prière commune, et aussi l'acolyte distribue la communion. Il devient ministre extraordinaire, comme on dit, de la communion, et cela peut se faire pendant la célébration de l'Eucharistie, mais aussi en dehors de la messe. Et du coup, vous voyez, ce ministère d'acolyte, en fait, il est déjà accompli, même si ce n'est pas de manière instituée et stable, par un certain nombre de laïcs qui le font, par exemple, dans le cadre de la pastorale de la santé, mais pas seulement.
Et qui le font également, puisque jusqu'à aujourd'hui, avant même ce motu proprio, des femmes pouvaient lire, des femmes pouvaient faire la catéchèse, des femmes donnaient la communion également. En réalité, ce motu proprio, il vient institutionnaliser quelque chose qui existait déjà, non?
Vraiment, c'est exact. Oui, en pratique, ces services sont déjà rendus par des hommes et des femmes laïques. Et ce qui change, en fait, c'est le statut. avec lequel les personnes concernées exerceront cette fonction. Voilà, la mission est désormais inscrite dans le droit canonique. Il y a un canon du droit qui a été modifié par le motu proprio Spiritus Domini du pape. Peut-être c'est intéressant de dire que Spiritus Domini, ça fait allusion donc à l'esprit du Seigneur Jésus, et le fait que le pape publie ce texte le lendemain de la fête du baptême du Seigneur situe très clairement son projet, si vous voulez. Il s'agit en fait de promouvoir le service des baptisés, ce qu'on appelle en particulier le sacerdoce baptismal. En fait, le pape a écrit une lettre pour accompagner le motu proprio, une lettre au préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Ladaria, et le pape François explique qu'il y a un sentiment d'urgence croissant pour redécouvrir la co-responsabilité de tous les baptisés dans l'Église. Vous voyez, c'est dans ce cadre que la mission des laïcs est promue.
À propos de cette ouverture, Anne-Marie Pelletier, exégète et théologienne, s'exprimait ainsi, hein, « Je suis presque surprise de l'émoi suscité par le motu proprio du pape François. Ouvrir l'acolyta et le lectorat aux femmes, c'est une disposition de bon sens. » Alors, bon sens ou non, de quoi cette ouverture est-elle le signe, père Comte?
Alors c'est vraiment, le pape François veut favoriser donc la participation de tous les baptisés à la mission de l'Église. Ça n'est pas nouveau, mais c'est une insistance pour laquelle il est connu et pour laquelle nous lui savons gré. Et il faut dire aussi que c'est vraiment l'occasion de réjouissance, même si ça n'est pas une immense surprise pour beaucoup de gens. Et il faut lire Anne-Marie Pelletier, qui est une autorité sur la question. En fait, c'est quand même une marque d'estime pour les laïcs qui ne sont pas des hommes, donc les femmes, et qui constituent la majorité des baptisés laïcs, et notamment des baptisés actifs dans l'Église. Alors, vous avez peut-être vu, les nouvelles du Vatican ont dit que la conférence des supérieurs majeurs, donc des ordres féminins, ont remercié officiellement le pape, et j'ai appris par un témoignage récent que, par exemple, en République démocratique du Congo, des religieuses font la fête grâce à cette annonce. Et je crois que c'est un vrai signe d'espoir pour beaucoup dans l'Église, et notamment pour les femmes. Mais il n'y a pas que les femmes qui se réjouissent que les femmes laïques puissent voir mieux reconnue leur place dans l'Église.
J'ai noté cette jolie phrase, hein, ces laïcs qui ne sont pas des hommes, autrement dit les femmes. Père, on ne va pas entrer dans la polémique, hein, mais on a évidemment en tête les revendications de certaines femmes. On a parlé d'Anne-Marie Pelletier, je pense notamment à Anne Soupa, hein, qui a fait parler d'elle en postulant au poste d'archevêque. Ce matin, je vous propose plutôt de nous interroger sur cette place des femmes dans l'Église et nous demander surtout si elle est à l'image de celle qu'elles occupent dans la Bible. C'est ce à quoi j'aimerais qu'on s'attelle maintenant. Alors, si on regarde la place dans la Bible, on peut se dire que ça part mal avec l'Ancien Testament, avec la Genèse notamment, hein, où Dieu se dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il va lui faire une aide qui lui correspond. Donc, la femme est une aide. Et puis après, la femme, c'est celle qui est à l'origine du péché. On pense à l'Ève tentatrice.
Alors, c'est vrai que les récits des commencements sont parfois lus, à tort, je crois, hein, l'invitation à considérer que les femmes sont inférieures. Et en fait, une certaine lecture chrétienne a pu encourager cela. Aujourd'hui, on en revient très largement, et même sur le mot « aide » dont vous avez parlé, voilà, il faudrait parler de ça très longuement. En fait, si vous voulez, je vous propose de faire plutôt un petit voyage dans l'Ancien Testament, même si j'ai beaucoup de respect pour Ève et pour Adam, mais c'est peut-être bien de regarder un peu ce que dit la Bible de manière un petit peu plus large. L'Ancien Testament, et puis peut-être l'Évangile, et j'aimerais bien qu'on dise aussi quelques mots des femmes qui entourent saint Paul, parce que finalement c'est assez bouleversant de voir que c'est surtout là, je crois, avec Jésus et avec Paul, qu'on voit comme en germe l'invitation à donner aux femmes toute leur place dans le ministère de l'Église, dans le service de leurs frères baptisés. Si ça vous va, on peut essayer de faire comme ça.
Ça nous va, ça me va très bien. Oui. On y va pour l'Ancien Testament, alors.
L'Ancien Testament, en fait, c'est vrai, vous savez, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, et c'est vrai aussi dans l'ancien Israël, la femme a sa place surtout comme épouse et à la maison. Alors il est vrai qu'il y a des femmes qui sortent, mais enfin, on pourrait dire que dans le livre des Proverbes, vous savez, il y a une série de compliments qui sont adressés à la femme de valeur, la femme vaillante. Le livre des Proverbes, c'est au chapitre 31. C'est intéressant parce que c'est très élogieux Et en même temps, ça n'est pas complètement révolutionnaire. Vous voyez, on dit que cette femme mérite la confiance de son mari, qu'elle travaille, qu'elle fait prospérer sa maisonnée. Elle crée d'ailleurs une véritable industrie domestique. Et en fait, elle va même travailler la vigne qu'elle a elle-même achetée. Finalement, c'est peut-être assez moderne quand même. Et il faudrait dire que c'est à ce moment-là aussi, dans Proverbes chapitre 31, hein, que la Bible dit ce qui compte plus que la beauté extérieure. On sait bien que quelquefois, on pourrait s'arrêter à considérer le charme féminin. Mais nous savons bien que les femmes ne sont pas que charmantes. Alors, la grâce trompe, dit la Bible. La beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. Et à vrai dire, c'est sans doute important. C'est un passage qui conclut le livre des Proverbes. Vous voyez, on pourrait parler, mais il faut arriver au Nouveau Testament, on pourrait parler des femmes qui sont au puits, on pourrait parler des femmes qui sont les mères de la promesse, on pourrait dire les matriarches, hein, disent certains, mais aussi des femmes qui sortent de la maison, qui prennent des risques. Alors c'est Myriam, c'est Esther, c'est Déborah, c'est Judith, on dit sur Judith, vous savez, cette héroïne qui est peut-être un remake au féminin de David contre Goliath, on dit de Judith, seule la vie peut vaincre la mort. C'est le père Beauchamp qui a écrit cela, qui est magnifique, je trouve. Seule la vie peut vaincre la mort, ça nous dit peut-être un peu ce qui est la vocation des femmes.
Peut-être dire un mot sur Judith, père. Judith et Holoferne.
Voilà, Judith, on se la représente avec la tête d'Holoferne qu'elle a coupée avec le glaive de son propre ennemi. Et donc, c'est d'abord une image de force et de violence qui est en fait déployée ici. Et finalement, on se rend compte que Judith s'est approchée très très près de l'interdit pour faire triompher finalement le droit et la vie, puisqu'elle va obtenir le salut de son peuple à une époque où il est, comme très souvent dans la Bible, extrêmement menacé. On pense aussi à Ruth.
C'est pour le remake féminin de David contre Goliath. On va aller au Nouveau Testament.
Un peu la faiblesse finalement, voilà, qui triomphe de la force. Enfin, c'est l'image qu'on se fait en tout cas.
Allons dans le Nouveau Testament.
Alors les femmes de l'Évangile, elles sont nombreuses, même si on n'en parle pas toujours très longuement. Alors, Jésus et ses 12 plus proches sont bien des hommes, mais on connaît les amis de Jésus, on connaît Marthe et Marie, et d'ailleurs on croit connaître leur histoire. Mais enfin, il faudrait peut-être regarder les textes de plus près, pas seulement chez Saint-Luc. Il y a les femmes disciples, qui souvent n'ont aucun titre.
Disciples.
Alors on lit c'est les femmes disciples, tout à fait, qui entouraient Jésus. C'était d'ailleurs assez scandaleux à l'époque, où en principe les rabbis s'entouraient surtout d'hommes, ou exclusivement d'hommes. En fait, elles aidaient beaucoup. On dit ceci dans l'Évangile, vous voyez, les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les aidait de leur bien. Alors là, il y a une petite note négative, en fait, hein, quand on parle de la délivrance, mais à vrai dire, il y a beaucoup de choses qui sont seulement positives, hein, sur les femmes qui écoutent le Seigneur. Et puis d'abord, la Vierge Marie, bien sûr, hein, que nous connaissons bien, en particulier dans l'Église catholique et dans les Églises orientales, et où vraiment on peut dire que c'est la figure même du disciple, et pas seulement la mère du Seigneur. Voilà. Mais les femmes sont celles qui savent montrer leur amour, celles qui permettent au Seigneur aussi de déployer toute sa miséricorde, et en cela, elles sont des exemples pour nous.
Elles ont des traits communs. Quelle image de la féminité elles dessinent, ces femmes, dans l'Évangile et puis auparavant dans l'Ancien Testament?
Alors, à vrai dire, ça n'est pas vraiment stéréotypé, donc c'est difficile de dire quelle image au singulier est dessinée, parce qu'on a l'impression que peut-être que le trait commun, c'est d'être attentive, d'être gardienne de la vie. Il me semble que c'est Jean-Paul II invité les jeunes, et peut-être en particulier les filles, hein, je ne me souviens plus, à être sentinelle du matin. Il y a quelque chose de cela dans la vocation féminine, certainement. Et dans le même temps, on a ces portraits bibliques qui décrivent des femmes fortes, des femmes efficaces, des femmes qui sauvent leur peuple quand les hommes ont démissionné. Et il y a beaucoup de passages extraordinaires où, en fait, les femmes prennent leur place sans forcément attendre que les hommes leur donnent un titre ou viennent chercher leur aide, même si ça arrive, hein, quand même quelquefois. Et c'est d'autant plus marquant dans une société où quand même l'histoire est écrite par des hommes et où elle concerne apparemment surtout des hommes. D'ailleurs, quand on pense à la généalogie de Jésus, c'est assez impressionnant. Vous voyez, dans Saint Matthieu, tout au début, il y a une généalogie de Jésus avec 5 femmes qui, d'une manière étonnante, sont insérées dans la généalogie de Jésus. Et en fait, à chaque fois, ce sont des femmes qui ont quelque chose d'étonnant. Voilà, on sent que l'évangéliste est comme surpris. Et en fait, le mystère de Dieu passe par ses surprises, en fait. On peut dire que la grâce nous révèle bien des surprises et que souvent, elle passe par des femmes. Les femmes ne sont pas toujours la figure de la faiblesse. On pourrait être tenté de penser cela. En fait, ça n'est pas du tout évident. Il faudrait sans doute affiner encore un peu les choses. Mais c'est trop court, hein. Il faut relire toute la Bible.
Et oui, et il nous reste une minute pour parler de Paul.
Alors, ça pourrait être intéressant quand même. Les églises d'Asie vous saluent, écrit saint Paul aux Corinthiens. Aquilas et Prisca, c'est la femme d'Aquilas, vous envoie bien des salutations dans le Seigneur ainsi que l'église qui se réunit chez eux. Saint Paul est un novateur, vous savez. Prisca a un rôle très important dans son couple et dans l'église, et Paul lui reconnaît un rôle de leader, comme un certain nombre de femmes, malgré ce qu'on a beaucoup dit. Voilà, Paul n'est pas misogyne, il ne voulait pas réduire les femmes au silence. Mais il a,
c'est vrai, soumettez-vous à vos maris pourtant. Ouais.
Pardon ?
Soumettez-vous à vos maris.
Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi.
Soumettez-vous à vos maris.
Ah, alors effectivement, on entend dire ça, il faudrait lire dans quel contexte c'est écrit. Ça c'est vrai, et en plus c'est peut-être bien de saint Paul, alors qu'il y a des choses qui sont attribuées à saint Paul et qui n'a sûrement pas écrites. C'est la soumission mutuelle dans l'amour qui est la nouveauté et qui se trouve citée dans Éphésiens chapitre 5, voilà, auquel vous faites référence. Donc c'est vrai, il y a ce passage, mais en fait qui n'est pas révolutionnaire de ce point de vue. Par contre, ce qui est autour, voilà, ça renouvelle complètement la vision du rapport entre les hommes et les femmes. Alors il y a, vous savez, beaucoup d'audace en fait chez saint Paul, au point qu'il appelle même Junia apôtre remarquable. Et parmi les trois diaconos, entre guillemets diacres, hein, dont il parle, il y a Phoebé, qui est une femme, même si nous ne savons pas encore hein, si l'emploi de ces termes recouvre exactement ce que nous vivrons par la suite. Hein. Il faut pas projeter directement dans la Bible nos propres préoccupations. Alors je recommande aux auditeurs un bon livre de Chantal Régnier sur ce sujet, un livre qui vient de sortir, Les femmes de saint Paul.
Et moi, je recommande les conférences bibliques hein, que vous donnez, le parcours que vous donnez, la prochaine et le 9 février, les femmes dans la Bible. Les femmes de la Bible, c'est le thème. Vous pouvez les retrouver sur le site www.formationdiocèse31.org. Il y a des efforts à faire, mais vous nous l'avez dit, dans l'Église, les femmes prennent de la place et même à la faculté théologique, puisqu'il y a un travail de recherche en cours sur la place des femmes dans la Bible. Merci beaucoup, Père Cyprien Comte, pour ce tour d'horizon.